Ça va? OK. Alors, je suis en haut parce que je vais utiliser ce petit bidule pour faire avancer les diapos. On peut sortir un prof de l'école, mais c'est dur de sortir l'école du prof. Moi, quand je travaillais à l'école, quand j'enseignais, c'était important pour moi d'avoir des images, d'avoir des choses qui pouvaient rendre concret aux élèves, du matériel à manipuler. Fait que quand j'enseigne, ben j'aime ça avoir un support visuel. Donc, j'ai pas la prétention de vous dire que le Seigneur m'a parlé et que je vais. Mais je vais vous partager ce qui est dans mon cœur. Évidemment, compte tenu que c'est la journée de la Pentecôte, bien, on va parler de la Pentecôte, du Saint-Esprit par le fait même. Et pour ce qui est des coutumes juives, parce qu'il va y en avoir au travers, cette fois-là, ma source d'inspiration ou ma source de référence, c'est un rabbin qui s'appelle le rabbin Forman, puis qui a une façon absolument fantastique d'aller chercher des bijoux puis des trésors cachés à l'intérieur de la parole de Dieu. Vous ai-je déjà dit que j'aime la parole de Dieu? Elle me fascine. J'adore fouiller dedans. Paul a dit qu'elle était inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors ce matin, on va partager des choses dans la parole, avec l'espoir que le Saint-Esprit va oindre cette parole, qu'elle va nous enseigner et qu'elle va nous rendre aptes à toute bonne œuvre. Donc, aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Les Juifs, eux, l'ont célébré mardi et mercredi dernier. À l'origine, c'était une fête qui était liée à la providence de Dieu qui pourvoit les fruits de la terre et qui les a délivrés de l'esclavage. En l'absence du temple et de la possibilité d'apporter les deux pains aux sacrificateurs et de faire les sacrifices prescrits, on célèbre maintenant le don de la Torah au Sinaï. Alors, mardi soir et pour plusieurs, toute la nuit, ils ont étudié et récité des psaumes. En principe, c'était les psaumes des degrés. C'était les psaumes qui étaient chantés et récités pendant le voyage jusqu'à Jérusalem, parce que la Pentecôte était une des trois fêtes où le peuple devait se déplacer jusqu'à Jérusalem pour adorer. Alors, mercredi matin, ils sont allés à la synagogue pour faire la lecture des 10 commandements. Et réitérer leurs vœux devant l'Éternel de suivre les commandements de Dieu. Et pendant la journée, ils ont fait la lecture du livre de Ruth. Et un petit peu plus tard, je vais vous parler du livre de Ruth, qui est vraiment un bijou. Donc, les caractéristiques de la fête de Shavuot, c'était une fête qui avait lieu 50 jours après la fête des Prémices. On voit ça dans Lévitique 23, 16. On devait apporter deux pains cuits avec du levain. C'est la seule fois dans toute l'année où on apportait devant Dieu des pains avec du levain. Tout le reste de l'année, c'était du pain sans levain parce que le levain représente le péché. Mais cette fois-là, c'était avec du levain parce que c'était la fête des premiers fruits, c'était la fête où on rendait grâce à Dieu pour le blé, pour les céréales qui permettaient de faire le pain qui nourrit. On faisait aussi des sacrifices qui étaient offerts à l'Éternel. C'était une journée qui était considérée comme un sabbat, donc on ne faisait aucun travail. C'était une journée de réjouissance qu'on célébrait en compagnie de ses enfants, de ses serviteurs, des Lévites, des étrangers, des veuves et des orphelins. C'était vraiment une journée particulière dans ce sens-là. Et c'était une journée où le peuple devait se souvenir qu'il avait été un jour esclave en Égypte. Pour nous, c'est un peu différent. Nous célébrons le moment où, au moment de la fête de la Pentecôte, les 120 disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Alors, dans Acte 2, on voit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Sans vouloir diminuer la valeur de cet événement marquant qu'a été le premier baptême du Saint-Esprit, moi je crois que la fête des premiers fruits, elle a été accomplie et a cessé d'être l'ombre des choses à venir quand Pierre a prêché et que, rempli du Saint-Esprit, il a annoncé le salut rédempteur de Jésus-Christ et que 3000 personnes sont venues à connaître le Seigneur. Alors Pierre leur a dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, cette journée-là, les Juifs qui étaient présents à Jérusalem pour fêter la Pentecôte, et tous les prosélytes, c'est des non-Juifs qui ont accepté de prendre la foi des Juifs, étaient réunis à Jérusalem pour fêter la Pentecôte. Donc, ils représentaient les deux pains qui étaient apportés autrefois devant Dieu. Les deux pains ont été présentés par Jésus, par son Esprit, à Dieu, comme fruit, comme récompense, comme fruit de son travail, du travail rédempteur qu'il avait accompli sur la croix. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est l'ensemble de toute cette journée qui est l'accomplissement de la promesse de la fête de la Pentecôte et pas seulement le Saint-Esprit répandu sur les apôtres. Dans Acte 2, on a vu deux symboles utilisés dans la parole pour parler du Saint-Esprit, le vent et le feu. Et le feu nous rappelle l'atmosphère qui était sur le mont Sinaï quand Dieu a fait alliance avec Israël. Quand Dieu s'est présenté devant Israël sur le mont Sinaï, c'était 50 jours après la sortie de l'Exode du pays d'Égypte. On calcule que comme ils sont partis le 14 de Nissan et qu'ils sont arrivés le 6 de Sivan au pied de la montagne, au début du mois de Sivan, et là, Dieu a parlé avec Moïse. Moïse est venu parler au peuple. Dieu a dit, préparez-vous et dans 3 jours, je vous rencontrerai. Alors, tout ça fait en sorte qu'ils se sont rencontrés. Dieu est venu sur la montagne du Sinaï le 6 de Sivan, ce qui faisait exactement 50 jours après leur sortie de l'Égypte. C'est pour ça que maintenant, comme le temple a été détruit puis que les Juifs peuvent pas faire les sacrifices, il célèbre cette journée-là qui était le don de la Torah. Donc, le troisième jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. L'alliance faite entre Dieu et Israël au mont Sinaï est en fait un contrat de mariage.
Ça n'a pas changé? OK. Bon, c'est pas la bonne non plus. Attends un peu. Voilà.
Ça, c'est le contrat de mariage. Le titre, c'est la houppa. La houppa, c'est l'espèce de dais sur, en dessous duquel les Juifs célèbrent leur mariage. Puis il y en a qui disent que tous les nuages, puis la fumée, puis tout ce qui était entouré, la montagne, était comme une houppa que Dieu avait placée lui-même au-dessus de la montagne pour célébrer son mariage avec Israël. Dans Deutéronome, on reprend les termes qui ont été faits au moment de cette rencontre sur le Sinaï. Et les termes que Dieu utilise pour faire son alliance sont vraiment les termes qui sont utilisés dans un contrat de mariage. Alors, dans Deutéronome 7, 12, ça dit « Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et les miséricordes qu'il a jurées à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. » C'était les clauses du contrat de mariage. Évidemment, il fallait que Israël respecte sa partie du contrat pour que Dieu respecte aussi la sienne. On ne regardera pas tous les symboles qui sont utilisés pour représenter le Saint-Esprit, mais on va s'attarder à l'huile. Dans l'Ancien Testament, je suis comme portée à regarder si ça a vraiment changé. Dans l'Ancien Testament, on mentionne l'huile d'onction qui était composée de 5 aromates et d'huile d'olive pure. Elle ne pouvait être utilisée que pour le sanctuaire ou pour oindre les serviteurs de l'Éternel. Dans Exode 30, on dit qu'elle a été utilisée pour oindre les sacrificateurs et les rois d'Israël. Il y avait aussi l'huile d'olive qui était pure, qui était consacrée à l'usage du chandelier du sanctuaire, qui lui devait rester allumé en permanence. Dans le Nouveau Testament, l'huile n'est pas mentionnée si souvent que ça, mais on en parle dans la parabole des 10 vierges. C'est sûr que dans cette parabole-là, on parle d'une lampe qui est beaucoup plus modeste que le menorah à 7 branches qui était dans le sanctuaire, mais c'est une lampe qui a besoin d'elle, qui a besoin d'huile elle aussi. La parabole des 10 vierges, elle se situe. C'est toujours important de considérer les textes dans leur contexte dans lequel Jésus les a donnés. Puis ça m'a frappé de voir que le contexte dans lequel Jésus parlait, c'était celui où ses disciples se sont arrêtés pour le questionner sur le moment de son avènement et sur les événements de la fin du monde. Jésus a utilisé cette histoire pour les encourager à veiller parce que seul le Père connaît le moment et l'heure. Puis ça m'a frappé parce que depuis le début de l'année, face à tous les événements qui se passent dans le monde, j'ai vu des personnes qui se sont éloignées du Seigneur avec les années et que le Saint-Esprit a amené à trouver sur le net ou autrement des choses qui parlent de la fin des temps, qui parlent des événements. Puis ces personnes-là sont en train de revenir au Seigneur parce qu'elles se questionnent sur ces événements-là, sur les événements de la fin des temps. Puis on voit sur le net, qui est une toile, qui est comme une... Tu sais, on l'appelle la toile, on l'appelle le net. Hein. Puis il y a beaucoup de choses dans ce que je vais vous dire aujourd'hui qui me font penser à du tissu, à un tissage, à de la tapisserie. Alors, sur le net, sur la toile, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont bonnes, puis il y a des choses qui sont moins bonnes. Il faut être vigilant, il faut faire attention. Parce qu'il y en a qui, présentement, posent les mêmes questions que les disciples, puis le font avec un cœur sincère, à savoir, Seigneur, est-ce que tu reviens bientôt? Puis il y en a d'autres qui vont troubler les gens, puis qui vont affirmer des choses. Mais Jésus dit bien que le Père seul sait le moment. Et il y a des personnes qui ont même annoncé que l'enlèvement était supposé arriver là, au moment de la fête de la Pentecôte en 2017. Il y en a d'autres qui l'attendent pour la fête des tabernacles ou la fête des trompettes à l'automne. Parce que, comme on le chantait ce matin, on est dans une année de jubilé pour les Juifs. Parce que ça fait 50 ans que Jérusalem est redevenue possession de la terre d'Israël. Et ils entrent dans une année de jubilé. Et la majorité des Juifs qui habitent en Israël sont conscients de ce jubilé-là et sont conscients que ce jubilé-là annonce une ère messianique. Alors pour eux, là, ils attendent le retour du Messie incessamment, n'importe quand. Alors l'Église attend le Christ, attend le Seigneur, puis les Juifs l'attendent en même temps que nous. C'est un signe de la fin des temps. Alors, il faut être vigilant sur ce qui se passe sur le net. Donc, ça n'avait pas bougé quand j'ai pesé dessus. Voici les conseils de Jésus à ses disciples. En Matthieu 24, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Mais celui qui, au verset 13, il nous dit aussi, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Au verset 15, il nous dit, « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. » Plus loin, il dit encore, « Instruisez. » Non, ça n'a pas changé. OK. Plus loin, il dit encore, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est à la porte. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Alors oui, on est dans une période qu'on appelle celle de la fin des temps et on attend le retour de notre Seigneur, mais on ne connaît pas ni le jour ni l'heure. Et il faut être prêt. Au chapitre 25, il ajoute, après avoir raconté l'histoire de la parabole des 10 vierges, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alors, si le contexte est une discussion autour des événements de la fin du monde, le contenu de la parabole des 10 vierges porte sur les noces de l'agneau. Et juste avant la noce, l'époux va chercher l'épouse en cortège dans la nuit, avec des lampes, de la musique, des chants, et il la ramène chez lui dans la salle de noces. Pendant ce temps-là, les jeunes filles du village peuvent se joindre au cortège. Elles peuvent être admises au festin, sans invitation particulière, à condition d'être revêtues des habits de fête et d'avoir avec elles leur lampe. Donc, c'est le contexte de la parabole des 10 vierges. La parabole de Jésus met en scène deux groupes de jeunes filles qui viennent attendre le cortège, quelque part, entre les deux maisons. Elles apportent leur lampe pour être admises dans le cortège illuminé. Leur lampe se compose d'un petit réservoir d'huile avec un bec dans lequel elles trempent une mèche. Cinq d'entre elles sont insouciantes, tête en l'air. Folles, nous dit le texte. Elles ne pensent qu'au plaisir d'être à la fête et non à ce qui est exigé pour en faire partie. Les cinq autres, par contre, sont prévoyantes et elles sont sages, nous dit la parole. Elles réfléchissent qu'il pourrait y avoir une certaine attente. Comme les poutardes, toutes s'endorment. Les lampes brûlent quand même. Ça n'a pas bougé? OK. Alors, toutes se sont endormies, puis les lampes ont continué de brûler parce qu'à cette époque-là, c'était, tu traînes, oui, ton huile, ta lampe, mais tu ne traînes pas le feu non plus. Tu sais, c'est comme, faut que tu entretiennes ta lampe pour que le feu continue de brûler. Mais là, elles se sont endormies. Alors, tout d'un coup, au milieu de la nuit, on annonce que l'époux arrive, les lampes doivent être prêtes, les sages ont eu la précaution d'apporter une réserve d'huile, mais les folles doivent aller en acheter. Les vierges sages sont admises dans le cortège, mais les vierges folles le manquent. Et quand elles reviennent, elles frappent à la porte, elle est fermée. Il n'y a eu aucune raison pour qu'on leur ouvre, parce qu'on ne les connaît pas et elles n'ont pas participé au cortège. Cette parabole nous encourage donc à être remplis du Saint-Esprit. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, comme les vierges folles de la parabole, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dans Apocalypse...
Là, je suis allée trop vite. OK. Non plus. Oups. OK. Ah, c'est ça.
Donc, les versets suivants dans Éphésiens 5 sont comme un peu comme un mode d'emploi pour nous montrer comment être rempli du Saint-Esprit. Ça dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Être rempli du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire simplement le dimanche matin. Quand on vient à l'assemblée, puis que là, on sent la présence du Seigneur, on est béni par les chants, on est béni par la présence des frères et sœurs autour, par l'atmosphère, par la qualité de la louange. Puis là, on sort de là, puis on dit, « Ah, c'était bon la louange un matin! » C'est pas seulement quand on ressent la présence du Saint-Esprit. Être rempli de l'Esprit, ça veut dire que c'est pas seulement quand je tombe par terre, puis que je suis en extase devant le Seigneur. Être rempli du Saint-Esprit, c'est tous les jours, c'est tout le temps. C'est le lundi matin, c'est quand mon patron me fait un reproche, c'est quand mon mari n'a pas sorti les poubelles, c'est n'importe quand, là. Puis pour être rempli du Saint-Esprit dans tous ces moments-là, ben, il faut s'entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. Il faut appeler le Saint-Esprit pour qu'il rappelle à nos cœurs la parole de Dieu. Jésus a dit qu'il nous enverrait le Consolateur puis qu'il nous rappellerait à tout moment ce qu'on aurait besoin. Alors, quand on est dans des moments plus terre à terre, moins spirituels, si on veut être rempli du Saint-Esprit, ben il vient. Il nous rappelle, il nous ramène une chanson, il nous ramène un verset, il nous ramène un psaume pour qu'on se mette à le chanter. Puis en le chantant, notre esprit s'élève vers Dieu, puis on est rempli du Saint-Esprit à nouveau. Pas parce qu'on est venu à l'église le dimanche matin, mais parce que le Saint-Esprit est avec nous tous les jours. Revêtons-nous donc des vêtements de noces. En Ésaïe 61, on voit que Ésaïe nous dit, « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé qui s'orne d'un diadème, comme la fiancée qui se pare de ses joyaux. » Puis depuis plusieurs années, ce verset-là, il est vraiment cher à mon cœur parce que pour moi, là, le manteau de délivrance, là, c'est le sang de Jésus. Puis quand je rentre dans la présence de Dieu, quand je sais que j'ai fait des coches mal taillées ou que je suis pas fière de moi puis que je m'aime pas, ben j'entre dans la présence du Seigneur en me disant, regarde, là, je le sais que j'ai fait des coches mal taillées, mais je mets mon manteau, le sang de Jésus. C'est lui qui me couvre. C'est lui qui me donne le droit de rentrer ici. C'est lui qui me donne le droit de venir te parler. C'est le manteau de la délivrance. C'est nos vêtements de noces. C'est ça, les vêtements de noces qu'on doit porter si on veut entrer dans la salle. dans Apocalypse 19, on voit que les noces de l'agneau seront un moment de réjouissance et d'allégresse. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Les vêtements que l'épouse revêt, ce sont les œuvres justes des saints. Puis dans Michée, hein, Michée a dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et c'est ça les œuvres justes des saints. Manifester la miséricorde, prendre soin de celui qui est dans le malheur, consoler ceux qui ont de la peine, comme Daniel le disait, aller voir des gens dans un salon funéraire, ça fait partie des œuvres de Dieu parce qu'on apporte la consolation, on apporte du réconfort à des gens qui sont dans le malheur. C'est ça les œuvres de Dieu. Des fois, on chante puis on dit, « Oh Seigneur, on veut voir ta gloire, on veut voir des miracles. » Oui, je dis pas non. Mais quand Moïse a voulu voir la gloire de Dieu, Dieu a dit, « Oui, je vais te montrer ma bonté. » Dieu a passé devant lui, puis lui a montré sa bonté. Puis il a déclaré son nom, comment il était le Dieu qui sauve, le Dieu qui est miséricordieux, le Dieu qui prend soin, le Dieu qui guérit. La gloire de Dieu, elle se manifeste aussi dans les petites choses. Et quand on va arriver devant l'Éternel, il va arriver puis il va nous dire, ben viens, entre, bon serviteur. Puis on va dire, oui, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour toi? Puis la parole nous dit qu'il va nous dire, ben quand tu es allé visiter cette personne-là, tu l'as fait pour moi. Puis quand tu as donné de l'argent pour celui-là, tu l'as fait pour moi. Fait que, oui, je te reconnais comme étant un bon serviteur. C'est ça les œuvres justes des saints que le Seigneur attend de nous. Et c'est les œuvres qu'il nous faut pratiquer en attendant qu'il arrive. Il y a un autre exemple d'un mariage. Non, c'est pas ça. Oui. Il y a un autre exemple d'un mariage qui était l'ombre des choses à venir. C'est celui dont il est question dans le livre de Ruth. Je vous disais tout à l'heure qu'on en parlerait. Ce livre-là a été lu dans les familles juives cette semaine au moment de la fête de la Pentecôte. On pense que le lien entre la fête de la Pentecôte et le livre de Ruth vient du dernier verset dans la portion de Lévitique qui explique comment célébrer la fête et qui va comme suit. Dans Lévitique 23, ça nous dit quand vous, à la fin de la description de la fête de la Pentecôte, ça nous dit quand vous ferez la moisson dans votre pays, vous laisserez un coin du champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, dans le livre de Ruth, c'est l'application de ce verset qu'on voit dans les deux premiers chapitres. L'histoire se passe à l'époque des juges, au moment où une famine sévit dans le pays. Bethléem, qui soit dit en passant veut dire la maison du pain, n'est pas épargnée par la famine. Et Élimélec quitte la ville avec sa femme Naomi et ses deux fils en direction de Moab, où ils s'établissent. Élimélec meurt et les deux fils de Naomi se marient avec des Moabites, qui s'appellent Orpa et Ruth. Naomi reste là environ 10 ans jusqu'au décès de ses deux fils. Il y a quelque chose aussi qu'il faut savoir, c'est que Élimélec, son nom voulait dire « Dieu est roi ». Ses deux fils avaient des noms particuliers, puis on verra un petit peu plus tard jusqu'à quel point Dieu a utilisé ça d'une façon vraiment sublime. Il y a un de ses fils qui s'appelait Malcon, puis l'autre s'appelait Gillion, puis il y en a un qui voulait dire maladie, puis l'autre voulait dire désolation ou malédiction. Alors, quand leur mère les appelait dans le cours, c'était « Hey, maladie, viens, c'est l'heure de souper ». C'était assez particulier de voir comment ces deux hommes-là avaient été nommés. Et là, au moment de la famine, Élimélec, qui était un homme qui était bien nanti puis qui aurait pu aider les autres autour de lui, a préféré quitter, a préféré s'en aller. Il s'en allait en Moab et avec ses fils. Donc, il a refusé d'aider l'indigent. Il a refusé de faire les œuvres justes de Dieu. Quand il est allé là-bas, Dieu l'a puni d'une certaine façon. Il est décédé. Ses fils ont choisi de marier des femmes moabites. Et en ce faisant, ça coupait l'héritage qui venait de leur père. Parce que là, les enfants qui naîtraient de cette union-là ne seraient plus nécessairement, à long terme, les fils de la descendance qui venait. Donc, c'était vraiment un geste irrévérencieux devant Dieu que d'avoir quitté Bethléem, d'être allé en Moab, puis d'avoir pris pour femme des femmes moabites. Après la mort de ses deux fils, Naomi décide de retourner en Bethléem parce qu'elle apprend que Dieu a visité son peuple et a ramené de la nourriture. Il y a de la nourriture, il y a du blé qui pousse, donc elle retourne. Naomi encourage ses belles-filles à retourner dans leur famille. Orpa retourne en Moab, mais Ruth reste avec elle. Et là, je pense que je vais prendre le temps, je ne l'avais pas mis, mais je vais prendre le temps de vous lire un passage dans Ruth. Je ne sais pas parmi vous lesquels ont bénéficié de cette bénédiction que d'avoir un groupe qui est venu chanter à leur mariage en chantant cette parole, mais Naomi et Ruth encourageaient Naomi à s'en aller, puis Ruth a dit quelque chose de merveilleux. Ne me presse pas de te quitter, de séjourner loin de toi, là où tu mourras, là où tu iras, j'irai. Tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Alors, Ruth a embrassé la foi de Naomi. Elle a choisi de suivre Naomi dans la terre d'Israël. Elle a choisi de quitter son pays, son père, sa mère, tout ce qu'elle connaissait. Elle l'a suivi dans un lieu qu'elle ne connaissait pas. Puis elle a accompagné Naomi dans son voyage vers Bethléem. Alors, quand elles sont arrivées à Bethléem, c'était au printemps probablement, c'était autour de Pâques parce qu'on dit que Ruth est allée glaner selon ce qu'on a vu tout à l'heure dans Lévitique, elle est allée dans les champs pour aller ramasser les grains qui tombaient par terre. Puis on dit qu'elle a ramassé la première journée de l'orge. La récolte d'orge était au printemps, puis elle était autour du temps de Pâques, parce qu'au moment de la fête des prémices, c'était les grains d'orge, les premiers grains d'orge qu'on venait offrir dans le temple. Donc, ils sont arrivés autour de Pâques, au début de la moisson, et Ruth est allée glaner dans un champ qui appartenait à un homme qui s'appelait Boaz. Et Boaz était un membre de la famille de son beau-père, Élimélec. Boaz a appris par ses serviteurs l'histoire de Ruth et comment elle avait pris soin de sa belle-mère, Naomi. Boaz est allé voir Ruth et lui a demandé de rester avec ses servantes pour glaner. Il a donné l'ordre à ses serviteurs de la laisser tranquille et même d'ôter des épis dans leurs propres germes pour qu'elle les ramasse. Ce soir-là, quand elle est allée à la maison, elle a rapporté un épha d'orge et a raconté à Naomi qu'elle avait glané dans le champ de Boaz. Donc, cette première portion de l'histoire était en lien avec la loi dans Lévitique, où on laisse quelqu'un glaner dans les champs quand la personne est pauvre, quand elle est veuve, quand elle n'a pas de moyens de subsistance. C'est une façon pour le peuple d'Israël de prendre soin des démunis. La deuxième partie de l'histoire est en lien avec une portion du Deutéronome qui concerne un autre qui concerne une coutume qui s'appelle le Yiboum. Et cette coutume-là existait avant, parce qu'on voit que les patriarches l'ont fait. On voit qu'Abraham l'a fait, on voit que d'autres avant lui l'ont fait, mais c'est une coutume que Dieu a instaurée d'une façon formelle dans la loi. Dans Deutéronome 25, on voit que lorsque des frères demeurent ensemble et que l'un d'eux meurt sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point en dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira « Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. » Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. Et s'il persiste et dit « Je ne veux pas la prendre », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. En prenant la parole, elle dira « Ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. » Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. Ouais, parce qu'il a été déchaussé, il a perdu une sandale parce qu'il n'a pas voulu faire ce que Dieu voulait. Alors, Naomi connaissait cette loi. Et d'ailleurs, elle savait que cette façon de faire avait été utilisée autrefois par Abraham. Et elle est allée recommander à sa belle-fille, Ruth, d'aller rencontrer Boaz et de demander à Boaz de prendre le droit, de se prévaloir de ce droit-là et de prendre Ruth comme épouse pour que le nom de la famille d'Élimélec ne soit pas effacé en Israël. Alors Ruth est allée trouver Boaz dans l'air sur la recommandation de Naomi et elle lui a demandé de faire valoir sur elle son droit de rachat. Boaz est allé dès le matin à la porte de la ville. Il a interpellé celui qui avait le droit de rachat avant lui en lui mentionnant que s'il rachetait la pièce de terre d'Élimélec, il fallait aussi qu'il marie Ruth pour relever le nom du défunt. Et là, on voit dans les petites images, celui qui a été interpellé par Boaz n'a pas voulu racheter le droit de Ruth. Donc, il a pris sa sandale et il l'a offert à Boaz devant tous les anciens comme preuve qu'il refusait de relever le nom du mari de Ruth et de Naomi et qu'il renonçait à son droit de rachat sur la possession, sur le terrain, la maison, mais aussi sur la descendance puis l'héritage de cette famille. Et donc, à la suite de cette renonciation de la part de l'autre, c'est Boaz qui a déclaré devant tous les témoins qu'il venait de faire l'acquisition de la main de Naomi de tout ce qui appartenait à Élimélec. Ruth est devenue sa femme et elle a enfanté un fils qui a été appelé Obed et qui est devenu le grand-père du roi David. Les témoins qui étaient là ont fait référence à Léa et à Rachel, qui étaient les femmes de Jacob. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Éphrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse ta postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péretz, qui fut engendrée à Juda par ta mère. » Et c'est particulier que les témoins mentionnent ces personnes-là, parce que Léa et Rachel, qui étaient les femmes de Jacob, étaient elles-mêmes issues d'un Yiboum, d'une occasion où quelqu'un a racheté l'héritage d'un frère décédé. Parce que Rachel et Léa étaient les filles les filles de Milka. Milka, c'était la... Milka était la sœur de Sarah et de Lot. C'était la fille de Haran. Et quand Haran est décédé, sans avoir, il y avait des enfants, là, mais quand Haran est décédé, Lot était trop jeune pour offrir une descendance. Puis il y avait deux filles. Abraham a marié une des filles, qui s'appelait Jiska, mais qu'il appelait Sarai, parce qu'il l'appelait sa princesse. Et son frère, Nakhor, a marié Milka. Donc, Abraham et Nakhor ont marié les filles de leur frère qui était décédé. Ils ont fait un yiboum. Ils ont voulu accorder une descendance à leur frère pour que le nom de leur frère ne soit pas disparu d'Israël. Léa et Rachel sont les petites filles de Milka. Elles sont issues d'une relation, d'un mariage qui a été fait par un yiboum. Abraham a marié Sarah et il y a eu de Sarah Isaac. Mais Abraham avait marié lui aussi la fille de son frère pour relever l'héritage de son frère. Alors, la descendance d'Abraham est née d'un yiboum. Et là, on avait cette descendance d'Abraham, Isaac, Jacob, Israël, Judas. Et là, on mentionne Judas. Judas avait quitté, en tout cas, il s'est en allé plus vers... Après avoir vendu Joseph, là, il y a un intermède dans l'histoire de Joseph où on voit que Judas est parti, il s'est en allé dans la terre de Canaan, et là, il a marié une femme de Canaan. Il y a eu des fils de cette femme-là. Puis là, un de ses fils, le plus âgé, a marié Tamar. Mais cet homme-là était méchant et il est mort sans avoir d'enfant. Le deuxième fils de Judas devait, par yiboum, marier Tamar, mais il n'a pas voulu le faire, puis il était méchant lui aussi, et lui aussi est mort. Alors Tamar s'est retrouvée veuve une deuxième fois. Il restait un troisième fils à Judas, mais Judas ne voulait pas le donner à Tamar, parce qu'il l'aimait beaucoup, puis bon, il était jeune, puis les années ont passé, puis Tamar, il ne se passait rien. Fait que par ruse, elle a usé de ruse, puis elle est allée elle s'est rendue sur le chemin où passait Judas. Elle s'est déguisée en prostituée, puis elle a pris, elle a incité Judas à coucher avec elle, puis elle a eu un fils, Pérets, qui est mentionné ici, de Judas. Puis Judas, sans le savoir, a accompli ce yiboum, il a accompli cette et c'est comme ça que, finalement, la descendance à partir d'Abraham a été maintenue. Sinon, il y aurait eu comme un bris, il y aurait eu un arrêt dans les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Et là, dans la descendance de Pérets et de Judas, on arrive à Élimélec. Puis Élimélec, parce qu'il y a une famine, il s'en va. Il quitte la terre d'Israël. Ses fils se marient avec des Moabites. Fait que là, l'héritage promis à Abraham, il va s'arrêter. Sauf que Dieu a permis que Ruth, une Moabite, issue de Lot, est venue, puis elle avait un cœur bien disposé. Et là, avec Boaz, ils ont fait le yiboum, puis ils ont rétabli la promesse faite à Abraham. Et de leur mariage est né le roi David. Dieu avait promis à Abraham... Dans Genèse 17, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations et je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Donc, c'est à travers de Ruth et Boaz que Dieu a accompli cette promesse-là faite à Abraham, parce que c'est de leur mariage qu'est né David, le roi d'Israël, et après lui, Salomon et les autres. Ce qui est intéressant, c'est que les mots qui ont été utilisés pour décrire Ruth sont identiques à ceux qui ont été utilisés pour décrire Abraham. Lui, qui n'était pas un juif au départ, a quitté la maison de son père pour aller vers un pays qui n'était pas le sien. Dans Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Boaz a reconnu la bonté que Ruth a manifestée envers sa belle-mère. En cela, elle ressemble aussi à Abraham, qui était reconnu pour sa bonté et sa générosité. Boaz a répondu à Ruth, « on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. » Donc, Ruth ressemblait à Abraham de par son cœur, puis Dieu l'a choisi pour ça, pour s'unir avec Boaz, puis assurer une descendance. Boaz est non seulement un des ancêtres de Jésus, mais il est aussi un type, une préfiguration de ce que Jésus va accomplir. Boaz est monté à la porte. On voit dans Ruth 4 que Boaz est monté à la porte et s'est arrêté. Or, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi, un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous, et ils s'assirent. Puis on voit dans Galates, puis là, mon texte n'est pas là, mais je vais le prendre là, que Jésus, quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, devenu malédiction pour nous, car il a été écrit maudit et quiconque pendu au bois. Alors, on voit que Boaz a racheté, il a dit, vous êtes témoin aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, dont le nom était Dieu est roi, à Kiljon, qui voulait dire malédiction, et à Maclon. Donc, Boaz a racheté la malédiction. Jésus nous a racheté de la malédiction. Boaz était comme une figure, il représente ce que Jésus était pour faire pour nous. Bon. OK. Parce que Jésus nous a rachetés, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Nous sommes appelés par son nom et nous avons en lui un héritage. Alors, dans Galates, ça nous dit « afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Donc, le livre de Ruth nous montre que Jésus, il a fait un yiboum lui aussi. Il a vu que Jésus a accepté de venir sur terre, de prendre chair, puis de nous racheter parce qu'on avait perdu notre héritage. Parce qu'à cause du péché, à cause du péché d'Adam, on avait perdu notre héritage, on avait perdu ce droit d'entrer dans la présence de Dieu. Jésus est venu racheter ce droit-là. Il est venu redonner notre héritage. Il est venu nous donner le droit d'être adoptés. Il est venu nous redonner le droit d'être appelés enfants de Dieu. Donc, le livre de Ruth, c'est comme une tapisserie. C'est plein de fils qui sont reliés à Abraham, au patriarche, mais c'est des fils qui sont reliés à Jésus et à nous. C'est un texte qui nous parle, oui, de la fête de la Pentecôte, mais c'est un texte qui nous parle de mariage, qui nous parle d'alliance, qui nous parle des noces de l'agneau, qui nous parle, c'est riche en images, en toutes sortes de choses. Donc, le livre de Ruth me faisait penser à une tapisserie. Puis je vous disais tout à l'heure que il y avait beaucoup de choses qui faisaient penser à comment Dieu est un tisserand, comment Dieu nous a tissés. Dans le psaume 139, ça dit que Dieu nous a tissés dans le sein de notre mère. Isaïe a parlé de Dieu comme étant celui, un tisserand qui tenait le fil de sa vie. Donc, je vais vous laisser avec un texte, un poème qui ne vient pas de la parole de Dieu, mais qui a été repris par Corrie ten Boom. C'est un auteur qui était inconnu, mais elle s'en est servie à plusieurs reprises pour parler de la grâce de Dieu. J'ai essayé de le traduire parce qu'il est en anglais. Je vais vous le lire en anglais par la suite, mais je vous l'ai mis en français. « Ma vie est comme le tissage d'une étoffe entre mon Dieu et moi. Je ne choisis pas les couleurs et il travaille avec rigueur. Souvent de fois, il trisse la tristesse et moi, dans mon fol orgueil, j'oublie qu'il voit la partie supérieure et moi, la partie inverse. » Ce n'est que lorsque le métier à tisser sera silencieux et que les navettes auront fini de voler, que Dieu déroulera le canevas et expliquera la raison pourquoi les fils noirs sont aussi nécessaires dans la main habile du tisserand que les fils d'argent et d'or dans le motif qu'il a planifié. Alors ça, c'est le texte original en anglais, puis une photo de Mme Corrie ten Boom. En anglais, ça se dit comme suit. My life is but a weaving between my God and me. I do not choose the colors. He works steadily. Oftentimes he weaves sorrow, and I, in foolish pride, forget he sees the upper side and I the underside. Not till the loom is silent and the shuttles cease to fly will God unroll the canvas and explain the reason why. The dark threads are as needful in the skillful weaver's hand as the threads of gold and silver in the pattern he has planned. Dieu est le grand tisserand dans nos vies. C'est lui qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Alors, j'ai voulu aujourd'hui vous présenter ma vision du tisserand, de la tapisserie que Dieu tisse à travers la parole de Dieu. Comment, à mes yeux, la parole est comme une étoffe, comme une tapisserie un peu. Parce qu'il y a tellement de liens, tellement de choses, de liens entre les mots, de liens entre les phrases, de liens entre les structures, de liens entre les images, entre l'Ancien Testament et le Nouveau. C'est d'une richesse incomparable. Alors, ma prière pour vous, c'est que le Seigneur vous bénisse et vous remplisse de son Saint-Esprit aujourd'hui. Si vous avez le cœur à cela, ça pourrait être intéressant que l'équipe de louanges puisse revenir, puis qu'on puisse terminer cet avant-midi par un court moment de louange dans la présence du Seigneur pour qu'il puisse nous remplir avec son Esprit.